Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures de découverte pieuse pour vous, de suspense anxiogène pour eux. Fini de se taper la cloche au resto pour ensuite cuver son pichet de Côte-du-Rhône dans la salle de repos. Désormais, chaque après-midi, les journalistes de la rédac découvrent l'ubérisation de la société. Comme les livreurs de sushis et les chauffeurs de VTC avant eux, vous avez maintenant la possibilité de les noter. Qui sera élu chroniqueur du jour? Eh bien, celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus captivant, l'histoire la plus étonnante, sous l'œil aujourd'hui d'un invité sympathique mais intraitable sur la qualité.
Je vous ai à l'œil. Et je puis vous dire que je ne suis ni astigmate, ni presbyte.
Bonjour Alice Moon.
Bonjour, ça va?
Je sens que ça va filer droit avec vous.
Oh, ça va filer droit, et je peux vous dire que la moindre vanne pourrie ou le moindre... Je serai intraitable.
Bon, bon,
et je vous demanderai d'aller au coin. Je fais référence évidemment à Ducobu.
Le troisième volet arrive bientôt, que vous réalisez vous-même, Elie, on va
tout
en parler. Alors vous êtes aussi actuellement en tournée pour votre nouveau spectacle, le 7e, Elie et Moon et ses monstres. On explique déjà qui sont ces monstres, Elie, ça pourrait faire peur notamment à mon fils qui a vu l'affiche, c'est Elie et monstres, je ne veux pas voir de monstres.
Bah, ils peuvent être autour de cette table par exemple,
je vous confirme,
sans vouloir vous manquer de respect.
Pas d'attaque sur le physique néanmoins.
Non, aucune attaque, je serai le premier. C'est pas des monstres qui viennent d'une autre planète, c'est ce que je dis sur scène, voilà, c'est des monstres comme vous, comme moi...
Notre
et je
voisin,
demande d'ailleurs
notre...
dans la salle s'il n'y a pas un assassin, un pédophile,
vous avez beaucoup
un violeur.
De bras qui se lèvent?
Quelques-uns, oui.
C'est flippant.
Un fan de Vianney, enfin bref.
Ah oui, ça va vraiment très loin.
Ah, ça va très très loin.
On va évidemment parler de ce spectacle, le temps simplement de vous présenter mes acolytes. À ma gauche, mon équipière de toujours. Dans les statuts de sa mission, il est écrit « Mettre l'invité à l'aise », mission dont elle s'acquitte avec beaucoup de zèle, parfois même un peu trop, comme me le faisait remarquer Bruno Solo hier.
Ah non, mais là c'est du vice.
Eva Rome, bonjour.
N'importe quoi.
Il serait inconvenant de vous réduire au rôle pourtant pittoresque de l'hôtesse d'accueil portée sur la bagatelle, puisque vous êtes surtout notre expert média. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. À ses côtés, Elie et Moon, un journaliste que vous allez adorer, puisque vous êtes féru de musique classique. C'est le mélomane d'Europe 1. Un
c'est
être
vrai.
D'une gaieté de chaque instant. Pour vous dire, il est le seul Parisien à dire, en entrant dans une rame de métro,
« Bonjour à tous
!» Bonjour. Bonjour à vous, Thierry Jeffrotin.
Bonjour à tous.
Oh mon Dieu, il l'a refait. Et sur la bonne tonalité.
Je pense que j'allais applaudir. Heureusement que je me suis abstenu.
Vous êtes notre expert musique classique, mais aussi notre référent patrimoine. Aujourd'hui, vous nous amenez à Versailles à l'occasion de la sortie d'un très beau livre, préfacé, je crois, par Carlos Ghosn.
Oh, bonne vanne.
Excellent. Excellent. Et j'applaudis dès demain.
Je cherchais votre soutien, Elie et Moon.
Mais vous l'aurez
toujours,
mon cher.
D'entrée.
Vous savez que je suis un fan.
Oui.
Vous le savez depuis le
discret.
Début.
Un fan discret. Expliquez-nous, Thierry, ce qu'on va faire à Versailles. Est-ce qu'on va découvrir un Versailles secret?
Secret, sans doute, mais vous allez redécouvrir un Versailles dans ce bouquin très épais. Je devrais dire livre, ouvrage, parce que Louis XIV est très présent, donc on va châtier son langage.
Alors, à ses côtés, Elie et Moon, attention, le proverbe dit qu'il n'y a pas de place pour deux crocodiles dans le même marigot. Or, voici, on peut le dire, un rival, puisque depuis peu, notre expert éco Axel de Tarlé s'est lancé lui aussi dans l'humour. Un lancement pour le moins chaotique, puisque vendredi, il a été obligé de nous refaire son sketch dit de la chèvre et de l'écriteau, après que je lui ai fait remarquer qu'il avait oublié un mot.
Ça veut rien dire ce que j'ai dit.
Nous verrons hélas que la deuxième version de la chute n'était pas plus efficace que la première. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour Mathieu.
Cet après-midi, vous allez vous recentrer sur votre cœur de cible, l'économie. Vous allez
exactement
tenter de prendre un peu de hauteur.
Je vais vous parler du biomimétisme. Le biomimétisme...
Je vais y aller les gars, hein, parce que déjà je vois que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour rigoler, donc je me casse. Donc, qu'est-ce que c'est?
Comment industriels s'inspirent de la nature pour améliorer leur performance? Puisque finalement la nature a tout inventé et nous ne faisons que la copier.
Ou que c'est la massacrer.
Je sens que l'émission peut basculer dans la philosophie
tout à
très
fait.
Très vite avec Elie et Moon, invité polyvalent. Voici pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Elie et Moon, vous êtes actuellement en tournée avec votre nouveau spectacle Elie et Moon et ses mondes. Vous serez le 6 et le 7 janvier à Paris, aux Folies Bergères. Est-ce que tous les personnages que vous interprétez finalement depuis vos débuts, puisque vous êtes un humoriste à personnages, ne sont pas tous des monstres finalement?
Mais bien sûr, mais j'aurais pu appeler tous mes spectacles comme ça. Je me rappelle d'une tante à qui j'avais donné la cassette ou le DVD à l'époque et je lui avais demandé si elle avait trouvé ça drôle. Elle a dit non, pas du tout. Donc en fait, elle avait tout pris au premier degré et elle avait trouvé que tous ces personnages étaient en manque de quelque chose. Donc oui, c'est des monstres, mais encore une fois, c'est des monstres qui nous ressemblent.
Il y a quelques jours sur Instagram, Elie, vous avez posté une photo de vous à, je dirais, 10-12 ans avec la légende
qu'est-ce que je pourrais raconter à ce petit Élie maintenant? Est-ce que vous avez trouvé la réponse?
Si tu devais parler au petit Mathieu.
Oh, le petit Matounet, oui, je ne sais pas trop ce que je lui dirais. Je lui dirais,
eh ben, je pense qu'il aurait honte, tout simplement. Et c'est là où je voulais en venir.
Tout ça pour en arriver là.
Tout ça pour en arriver là. Non, j'ai esquivé la question, évidemment. Je ne sais pas. J'avais 11 ans, j'étais un petit rêveur, un mini-artiste, on va dire. J'en suis encore un. On va dire.
C'est beau, voilà, c'est beau d'humilité. Élie Semoun est de retour et de passage
Amy
sur Europe 1. Émi Sélhoun aussi, il sera là demain. Pour l'instant, c'est Élie Semoun et de passage sur
Mathieu
Europe 1 cet après-midi.
Europe 1.
Élie n'aura peut-être pas fait le voyage pour rien cet après-midi puisqu'il aura dégoté sa prochaine première partie. Axel de Tarlé, l'humoriste préféré des abonnés de Challenge, sera-t-il prêt pour les Folies Bergères début janvier?
Pour faire fortune, c'est simple, vous prenez une chèvre, vous lui mettez un écriteau sur lequel vous écrivez le mot « Internet ». Vous la cotez en bourse et vous faites fortune.
Même la chèvre, elle n'a pas compris la blague.
Mais début janvier, ça me paraît court, il va falloir répéter quand même. Pour l'instant, il revient à ses premières amours, l'économie. Et si demain, les avions de ligne volaient en escadrille, comme les emmerdes, c'est pas une blague, c'est une idée d'Airbus pour faire économiser du carburant aux compagnies. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Renouer avec le rire pour libérer son esprit des tracas de la vie moderne tout en cultivant son savoir, on dirait le titre trop long d'un bouquin de développement personnel préfacé par Mathieu Ricard. Eh bien non, c'est le programme ambitieux de l'équipe sauvage en présence d'Élie Semoun cet après-midi. 2 heures pour booster votre culture G et élire tous ensemble le meilleur journaliste européen qui recevra une prime de performance exceptionnelle. Bref, autant vous dire que dans l'équipe, certains sont là par passion de leur métier et d'autres, comme Axel de Tarlé, pour d'autres raisons.
Pour la pépette.
Oui, bah la pépette, sans vouloir vous vexer Axel, ce n'est pas au 9e du championnat que la direction va verser la prime, surtout 9e sur 10. Hein, je rappelle le classement. Alors il serait temps aujourd'hui de prendre votre envol, Axel.
Je suis avant-dernier.
Oui, je vous le confirme, j'ai le classement sous les yeux. Si, parfois.
Élie Semoun, si
vous voulez
faire
votez
une œuvre de charité.
Oui, oui, bah, je veux bien voter pour vous, mais racontez-moi.
Vous prenez l'avion de temps en temps.
Bien sûr.
Voilà. Bon. Ouais. Bah, moi, je vais vous parler des avions qui vont bientôt voler en escadrille, les oies sauvages. Oui. Pourquoi? En fait, c'est une idée d'Airbus. Airbus qui s'est dit, tiens, pour améliorer les performances des oiseaux, des avions, ça commence bien. Je vais regarder ce que font les oiseaux.
Là, c'est bon, vous êtes mort pour la semaine prochaine.
Je vais regarder ce que font les oiseaux. Ça s'appelle le biomimétisme. On s'inspire de la nature. Et vous avez remarqué que les oiseaux migrateurs, quand ils traversent
en
escadrille, parce qu'en fait, l'oiseau de tête aspire les autres dans son sillage, et ce qui permet, comme ça, il y a une rotation pour moins se fatiguer. Et donc Airbus s'est dit, tiens, ils ont fait des tests, et si on volait en escadrille pour traverser l'océan Atlantique, eh bien, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les avions qui sont derrière consomment moins 5 à 10% de kérosène en moins. Et donc, Airbus est en négociation avec les compagnies aériennes pour leur dire, quand vous traversez l'Atlantique, mettez-vous d'accord.
Mais est-ce qu'ils vont trouver assez de gens pour partir? Oui, c'est moi, Élie Semoun. Est-ce qu'ils vont trouver assez de gens pour partir comme ça en escadrille? Parce que un avion contient à peu près environ 300 personnes.
Oui, on peut imaginer que l'avion de Milan rejoigne l'avion de Paris, rejoigne l'avion de Londres. Bon, c'est un projet.
J'ai beaucoup de respect pour vous et vous êtes un humoriste extrêmement intelligent.
Je vous emmerde, Mathieu, d'accord. Je sens que vous allez me dire une saloperie.
Mais non, mais vous pensez que chez Airbus, il y a quand même des gens qui ont peut-être réfléchi avant de proposer ce truc de vol en escadrille.
Non, mais là, vous avez raison, Élie Semoun, moi je vous défends.
Le mépris de l'homme qui est à ma gauche est insupportable. Je suis invité à cette émission et je suis insulté. Et pourtant, j'aime beaucoup cet homme et depuis le début, il le sait. Et c'est une ordure. Il tuerait pour faire une vanne. Et moi aussi.
Vous aussi, c'est pour ça qu'on s'entend bien.
Voilà, tout à fait.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
On peut se demander s'il n'y a pas un peu,
vous savez, de communication là-dedans. Vous savez, on dit toujours la nature, c'est merveilleux.
Vous venez de vous faire avoir parce qu'on en parle.
Mais en matière de biomimétisme, vous savez, les piqûres, ça me fait tomber dans les pommes. Je parle un peu de moi.
Oui.
Et ils sont en train de s'inspirer des moustiques pour faire une piqûre qui serait totalement... puisque écoutez, un moustique, ça n'est rien d'autre qu'une prise de sang. Il vous fait une prise de sang et on ne sent rien.
Oui, mais je crois qu'il vous envoie un produit avant pour anesthésier, quelque chose comme ça.
Bon, d'accord. Bah, peut-être qu'il faudrait mettre un peu d'anesthésie. Ouais. Voilà, enfin, tout ça pour dire que le 20e siècle, pour donner un peu de profondeur à ma chronique, était très performant. C'était le Concorde, les pesticides, le nucléaire. Et le 21e siècle, vous voyez, est très beaucoup plus doux. On parle d'énergie solaire, on parle d'éolien. Pour le transport, c'est le retour des bateaux à voile.
Vous croyez vraiment à ce que vous dites là?
Non,
vous voyez pas que la planète est en train de partir en sucette.
J'essaie désespérément de gagner 3 points. Je vous rappelle que je suis avant-dernier.
Ah, vous êtes avant-dernier, mais je comprends.
Vous êtes prêts à tout? Donc, pour 3 points.
Oui, c'est ça, vous dites n'importe quoi. Et après, on s'étonne des chiffres. Bon, bref. Allez, messieurs, bonne soirée. Je me casse.
Semoun reste quand même, contrairement à ce qu'il dit. Ah, il reste avec nous. Élie, vous restez là.
Europe 1.
À suivre, on évoquait tout à l'heure le caractère vénal de certains journalistes de cette émission. Heureusement, il est encore des journalistes qui aiment leur métier. Et lui, s'il est avec nous cet après-midi pour évoquer les derniers secrets du château de Versailles, c'est parce qu'il ne veut qu'une chose.
De la thune.
Non, non. Vous éclairez, vous donnez des idées de sortie pour le week-end. Chacun, essayez tous de vous souvenir de ce qu'on a dit avant l'antenne quand même. Bref, Thierry Geffrotin vous fait découvrir un autre Versailles, juste après Brigitte. Battez-vous.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'Équipée Sauvage, la grande compétition des journalistes d'Europe 1. Alors oui, on peut y voir un simple divertissement potache. Personnellement, j'y vois plutôt le triomphe de la philosophie de Hobbes sur celle de Rousseau. Oui, quand je vois quelque chose, quand je vois dans quelque chose le triomphe de la philosophie de Hobbes sur celle de Rousseau, je fous bac. Triomphe de la vision hobbienne selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme et plus particulièrement le journaliste pour le journaliste. Le voir se déchirer comme ça chaque après-midi, fût-ce au service de votre culture G, moi ça me retourne le cœur. Certains invités comprennent mon trouble, d'autres comme Bruno Solo hier font preuve d'une empathie moindre. Quand je lui ai dit que c'était dur de noter les journalistes, il m'a simplement dit
« Bah ouais, mais enfin, fallait pas faire un métier de pute !»
Oui, bon, c'est vrai, c'est pas faux. Aujourd'hui, c'est Élie Semoun qui nous accompagne. Élie, vous êtes en tournée avec votre nouveau spectacle.
Je suis moins vulgaire que Bruno Solo, je tiens
vous
à le dire.
Beaucoup moins
vulgaire, tout en finesse. Tout en finesse.
Vous souhaitez que vos sketchs...
Je vous ai interrompu, allez-y.
Vous souhaitez que vos sketchs aient un double objectif. Le premier, faire rire, bien sûr, c'est quand même votre métier. Mais le deuxième, qu'il y ait du sens, qu'il y ait du fond. C'est vraiment pas la vanne pour la vanne, Élie Semoun, c'est votre signature.
Tout à fait. Je suis, vous avez face à vous, le philosophe de l'humour. C'est-à-dire, et là, je ne comprends pas vos ricanements en face. J'essaye d'amener ce petit plus. Certains diront que c'est un grand moins. Mais j'essaye en tout cas de trouver des sujets que personne ne va chercher. Voilà.
Je ne vous sens pas très fan de la mode qui est déjà en train de s'estomper, du stand-up, parce que vous avez toujours été avec des personnages sur scène.
Les personnages.
Et vous trouvez que le stand-up, c'est un petit peu paresseux, finalement, comme exercice.
C'est pas paresseux, mais on va dire qu'on prend moins de risques à raconter sa vie et à dire qu'on va se balader chez Ikea et qu'on va mettre de l'essence dans sa voiture en essayant d'atteindre le chiffre zéro, etc.
Je ne sais plus qui l'a fait celle-ci, mais on l'embrasse.
Bon,
hein.
Oui, ouais, gros bisous. Non, mais voilà, j'ai l'impression que les textes de Monsieur A peuvent être donnés à Monsieur B et vice-versa. J'aime bien personnaliser les choses. Donc, dans mon spectacle, je parle du handicap, je parle de l'échangisme, je parle de la pédophilie, je parle de djihadisme. D'ailleurs, vous en êtes témoin, puisque je crois que vous avez vu le spectacle.
Oui,
contrairement à vos amis, vous avez été professionnel.
J'ai envoyé Eva.
Et Mathieu,
tous les sujets tabous, vous les évoquez. Hein.
Tous les sujets tabous.
On est d'accord.
La mort.
La mort, le racisme, le djihadisme.
Oui. Alors, le racisme, c'est un Tinder de racistes, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, c'est une application qui repère des racistes à plus de 300 mètres. Donc, il y en a deux qui se rencontrent. Elle a mis sur son profil « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie sans les Arabes ». Ça peut attirer, c'est vrai. Et puis après, lui dit qu'il a vécu à l'étranger, à Marseille, et qu'il remonte à la capitale, à Hénin-Beaumont. Voilà, etc.
Quand on dit que vous évoquez vraiment tous les sujets, et même les plus graves, Eva m'a dit qu'il y a un sketch, ou en tout cas une partie du spectacle, où vous évoquez votre mère, qui est décédée quand vous aviez 11 ans. À mon sens,
peut-on
c'est la première
faire
fois
rire
que vous en parlez. On peut peut-être en faire rire, mais en tout cas, vous aviez envie de vous dévoiler de ce côté-là.
Oui, parce que plus il y a de concurrence et plus on a envie de ne ressembler à personne.
Oui.
C'est pas uniquement pour ça, mais oui, j'avais envie de parler de ma mère. Elle est morte quand j'avais 11 ans. Elle est morte d'une hépatite B. Ça l'a emportée en deux semaines. C'était un gros choc pour mon frère et ma sœur. Ça nous a choqués. On y pense encore parce que le cœur n'a pas d'âge. Enfin, bref. Et donc, j'avais envie d'en parler et j'ai trouvé le moyen. J'amène une urne sur scène. Et je raconte ma vie à ma mère. D'abord, je lui demande si elle n'a pas trop chaud, si j'ouvre pas la fenêtre parce que ça fait des courants d'air, si ça ne les dérange pas que je fume. Ça détend les gens. Et après, je lui raconte, je lui dis, voilà, quand j'avais 8 ans, j'étais vétérinaire. À 9 ans, j'étais cosmonaute. Et à 11 ans, t'es morte, bah, je suis devenu comique. Alors, je ne sais pas si tu as le câble là où vous êtes, mais je passe de temps en temps chez Michel Drucker. Oui, il est encore là, lui. Et je raconte, je dis que voilà, je fais des personnages qui n'existent pas. Que elle, c'est pas pareil, elle n'existe plus. C'est une autre forme d'humour, c'est de l'humour noir. Que d'ailleurs, j'en ai rencontré un en début de carrière. Enfin, bref. Voilà, donc ça fait rire. Et puis ça fait... J'ai des copines qui ont versé des larmes, mais des larmes de rire aussi. Voilà.
L'art de dédramatiser. Oui, Elise Moon est avec nous sur Europe 1 cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, c'est une des destinations touristiques les plus prisées au monde. Mais Versailles a-t-il encore des secrets ? Est-il possible de visiter le château et ses jardins différemment ? Thierry Geffrotin vient nous présenter un livre où le passé de Versailles ressurgit comme par enchantement. Un peu plus et on pourrait entendre Anne d'Autriche sermonner Louis XIV qui s'adonne à la luxure plutôt qu'aux affaires du royaume.
Toujours est-il que tu es le bras de Dieu ! Les gens sont là pour croire à ces conneries. Faites en sorte de les en persuader.
On s'y croirait vraiment, Thierry.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Deux heures d'un affrontement fratricide entre les plus belles plumes de la rédaction. Quatre journalistes prêts à tout pour accéder à ce Graal, désormais plus précieux dans le monde du journalisme que le prix Pulitzer. La couronne en plastique Pierre Import, récompensant le meilleur chroniqueur du jour.
Elle est belle, elle est dégueulasse.
Elle est vraiment dégueulasse, Elise
Moon. Franchement, je me battrais pas pour un truc comme ça.
Je confirme.
C'est le symbole. On dirait un truc de Galette des Rois.
Mais écoutez, Elie, vous connaissez les moyens,
scandaleux.
Vous connaissez le budget d'Europe 1
Mathieu,
actuellement.
Oui, je connais les problèmes que vous avez et je vais vous faire remonter la pente.
Oh oui.
Est-ce que vous voulez du buzz ? Est-ce que vous voulez
un truc
Est-ce que vous voulez que je fasse un dérapage ?
Oui, un dérapage.
Tout le monde parlerait de l'émission en disant Elise Moon a dit que...
Elise Moon pète les plombs. Buzz Media, Elise Moon pète les plombs.
Laissez-moi réfléchir à un scandale, à quelque chose sur lequel on fait une phrase sur le racisme. Non, peut-être pas, non.
L'antisémitisme, ça a l'air mal.
L'antisémitisme,
eh ben, voilà.
Bon, oui.
Eh ben, je vais dire un truc contre les juifs. Voilà.
Énorme
ça va
être, en perspective.
Ça va aller très loin.
Ah ouais,
je cherche quelque chose à dire contre les juifs, j'arrive.
Ça va lui venir suite. Facilement. En présence aujourd'hui, vous l'avez compris.
Ah tiens, le voilà, le buzz.
Je t'ai fait la rampe de lancement pour ton buzz.
Non, c'est de l'antisémitisme, monsieur Noël.
Elise Moon. Vous nous accompagnez aujourd'hui sur Europe 1. J'avais écrit un des grands noms de l'humour français, mais je l'enlève. L'humoriste Elise Moon nous accompagne.
Attendez, je prends sa feuille. Un des nombreux juifs de l'humour français. C'est ce que je lis, mesdames et messieurs. C'est un scandale.
Ouais.
Le voilà, Elie, le buzz.
Elie, c'est bon, je pense que là,
voilà,
on est bon en termes de buzz.
Voilà la remontée de l'audimat de cette émission.
La remontada. Il nous reste une seconde pour lancer Thierry Geffrotin sur son sujet. Sur Versailles.
Vous
mon
êtes
cher
une
Thierry,
petite ordure.
Le buzz, c'est notre cœur de métier, mais également les découvertes. Thierry, vous nous emmenez à Versailles. Oh ! Avec des effets sonores de qualité.
Pyrotechnique sonore.
C'est les grandes eaux.
Oui, je vous emmène dans la plus belle maison du monde. La plus belle maison du monde, c'est ainsi qu'Adam Perel, graveur de Louis XIV, parle du château de Versailles. En 1680, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore achevé le château. Alors en fait de visite, je vais vous recommander vivement un livre écrit par Sandrine Rosenberg, très richement illustré avec notamment des dépliants panoramiques. Et ce
Rosenberg,
livre,
c'est louche.
Je souligne,
c'est tout.
Ce livre...
Et je me demande si ces gens-là ne sont pas partout. Bref, allez-y.
Nous sommes à Versailles.
Oui, c'est ça.
Que nous allons découvrir dans les moindres détails grâce à ce livre dont le titre est « Château de Versailles, petit inventaire ludique et spectaculaire de la plus belle maison du monde ».
On apprend quoi de si ludique et de spectaculaire dans ce livre ?
Alors, il y a 316 pages, c'est écrit en chiffres romains, vous savez les pages, donc c'est pas facile, mais j'ai finalement décrypté. 316 pages.
Ça a l'air d'être de l'hébreu.
Sans sujet. Mince.
Non, sans sujet,
vous allez vous rendre compte que vous savez finalement peu de choses sur Versailles, même si vous avez plusieurs fois visité le château. Par exemple, que c'est Louis-Philippe qui, en 1833, a décidé d'en faire un musée, ou qu'en 1855, Napoléon III a organisé un grand souper en l'honneur de la reine Victoria, et où a eu lieu ce souper ? Bah, pas dans la Galerie des Glaces, un bel endroit, pas dans la Galerie des Batailles, mais à l'Opéra. Vous voyez, on a enlevé toutes les chaises, on a mis 400 convives, 40 tables. C'était pas mal, quand
mais
même.
Mais Versailles, pour moi, Thierry, c'est Louis XIV.
Mais il est là, bien entendu, Mathieu, à travers...
Je sais que vous allez chanter, j'ai eu peur.
Presque, À travers les œuvres qu'il a commandées, on doit ainsi au Bernin. Vous savez, le fameux Bernin, quand vous allez à Rome, la place Saint-Pierre, c'est le Bernin. Et bien, il avait fait une statue équestre de Louis XIV. Mais le roi Soleil, qui pourtant admirait le Bernin, a détesté. Donc, il a fait retravailler tout ça par d'autres. Et c'est devenu, non pas Louis XIV, mais un jeune Romain, Marcus Curtius. Et aujourd'hui, non seulement on n'a plus du tout l'original, on a une copie, mais elle est conservée dans l'orangerie. Si je vous dis Jardin de Versailles, vous me répondez ?
Oh, évidemment, le traiteur.
Très bien, oh, joli.
Le nôtre. C'est une vanne de la vérité si je mens.
Oui, je me souviens bien. Qui a imaginé les jardins, vaste composition ou géométrie.
Oui, la vérité si je mens.
Mathieu, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me rappeler qui sont les protagonistes de la vérité si je mens ?
Donc, je crois qu'on est sur un sujet brûlant.
Allez-y, mon cher.
Le nôtre qui a conçu les jardins, mais pas seulement le nôtre. En effet, l'architecte Ardoin Mansart a aussi créé des bosquets, notamment le bosquet des Sources qui a pris le nom de colonnade, puisque c'était un architecte. Et bien, le nôtre n'a pas du tout apprécié qu'on vienne marcher sur ses plates-bandes. Jeu de mots. Enfin, pour revenir un peu à Élie et au spectacle, Marie-Antoinette se produisait au théâtre du Petit Trianon. Et parmi le public, qui avait-il ? Des domestiques, il n'a pas besoin d'aller au spectacle très loin. On disait, venez voir la reine. Aujourd'hui, vous allez au théâtre du Petit Trianon. Il est resté exactement dans l'état où il était. C'est le seul, d'ailleurs. Hein. C'est très, très beau. Hein. Ainsi que l'Opéra Royal. Il manque juste aujourd'hui Marie-Antoinette, en fait.
Alors Thierry, je vous remercie. C'est con que vous ayez choisi de parler patrimoine, puisque votre autre casquette, c'est la musique classique. Or, Elie Semoun est féru de musique classique. Oui. J'ai un point commun avec Adolf Hitler, dit-il. J'adore Richard Wagner. Et Adolf Hitler et Richard Wagner avaient un point commun, une passion pour les Juifs, décidément, cette émission.
Oui, ça, c'est votre... on est vraiment sur le sujet. Mais je suis d'obédience de confession juive, même si je ne crois pas en Dieu. Et en effet, j'adore la musique classique, c'est la vérité. J'explique aux gens que je vais à Bayreuth chaque année.
Le fameux festival.
À pas confondre avec Beyrouth.
Ah oui, c'est vrai.
C'est pas pareil.
On pourrait.
C'est un festival, en fait, où tous les Wagneriens du monde entier se réunissent. J'y vais, bon, je mets pas de kippa. Enfin, c'est-à-dire... en fait, pour donner une image, les catholiques vont à Lourdes, les musulmans vont à la Mecque et les nazis vont à Bayreuth. j'exagère évidemment. Je caricature, mais c'est vrai que c'est un endroit dans lequel je vais chaque année et que j'adore. Et la musique de Wagner, même si c'était un gros antisémite, me transporte. Je suis totalement fasciné par cette musique.
J'ai envie de rebondir sur la question d'actualité. Est-ce qu'on dissocie l'artiste de la personne ? Vous dites Wagner, on écoute Wagner, on peut apprécier Wagner.
Je dissocie l'artiste de la personne.
Est-ce qu'on dissocie également, alors je ne sais
Céline,
pas, Polanski, toutes ces affaires en cours. Est-ce que vous continuez à apprécier l'œuvre des gens, peu importe ce qu'ils font ?
Parfois, il faut peut-être pas connaître certains artistes. Vous en avez fréquenté, certainement. certains.
Évidemment, pas de nom.
Et vous le regrettez. Bruno Solo, entre autres. Vous me l'avez dit. C'est une ordure. Entre autres, mais c'est le nom qui me vient à l'esprit, mais j'en ai tellement
premier,
d'autres, je pourrais en balancer tellement. Mais non, mais c'est vrai que parfois c'est un peu décevant de connaître la vie de certains artistes.
Il vaut mieux se contenter de leur œuvre.
Voilà.
Comme Elie Semoun. Non, pas comme Elie Semoun, qui est aussi délicieux dans la vie. Il est en tournée actuellement avec ses montres. Il est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, analyse d'une expression française aujourd'hui en compagnie d'Eva Rock. Nous reviendrons sur le sens de l'expression « toucher le fond ». Toucher le fond, action de se vautrer lamentablement au-delà même des limites qu'on avait imaginées. Et Dieu sait pourtant que sur le quiz qui oppose Eva Rock à l'invité, les limites étaient déjà fixées assez loin. Eva Rock !
Oui.
Quelques jours après la chute du mur de Berlin, un couple s'est retrouvé et marié. Il s'était fiancé 28 ans auparavant, vrai ou faux ?
Mais je comprends rien.
Elie Semoun contre Eva Rock, le quiz arrive.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est un moment clé de notre émission, même notre président en a conscience et chaque après-midi il arrête tout pour l'écouter.
Des émissions où l'histoire bascule, où le destin de la France, de l'Europe et du monde se sont joués.
Oui, Emmanuel, l'heure du quiz.
Quel mauvais acteur.
Ah, vous trouvez qu'Emmanuel Macron ne joue pas bien
Non, mais c'est pas possible.
C'est vrai ?
Il dit des belles choses. Moi, je l'aime bien, Macron. Ouais. Mais je trouve qu'il en fait tellement, mais c'est pas possible.
Il en fait des caisses.
Moi qui ai dirigé des comédiens et des enfants, puisque on peut considérer qu'Emmanuel Macron est un enfant. Non, c'est pas possible, il en fait trop, il prend trop de temps, il n'a pas le sens du rythme, il n'a pas le sens de la chute. C'est trop long, mais moi, si j'étais son conseiller municipal, non, son conseiller artistique, je lui dirais, mais soit plus
sa plume,
court.
Vous pourriez être sa plume. En tout cas, vous pourriez
pas
être
sa plume,
pas sa plume,
je crois
le metteur en scène. Vous
oui,
pourriez être...
son metteur en espace.
Tout à fait.
Tout à fait.
Alors, je vous parlais d'un moment absolument exceptionnel dans l'émission, très attendu par nos auditeurs.
Ouais.
Un moment toujours grisant pour notre invité qui se voit donner l'occasion de briller à peu de frais et toujours symétriquement douloureux pour Eva Rock qui parfois est tellement larguée qu'elle ne trouve qu'un échappatoire, remettre en cause la qualité et l'intérêt des questions, technique honteuse que ni moi ni l'invité n'approuvons. Quelques jours après la chute du mur de Berlin, un couple s'est retrouvé et marié.
Oui.
Ils s'étaient fiancés 28 ans auparavant, vrai ou faux?
Mais on s'en fout.
Mais indépendamment du fait qu'on s'en fout, on attend une réponse quand même.
Bah on va dire vrai, mais on s'en fout, parce que c'est pas une question historique, quoi.
Mais tout est histoire, Eva.
Eh ben, je dis oui.
Vous dites oui, c'est faux, et c'est bien fait pour votre gueule. Oui, voilà. Il y a une très bonne ambiance dans cette émission.
Vous avez vu comme je suis traitée,
on s'aime. C'est dégueulasse, c'est et vous êtes la seule femme.
Et je suis la seule femme.
Ah, pas toujours.
Pas toujours.
Pas toujours, aujourd'hui. Sauf que le casting est très masculin aujourd'hui, mais c'est un hasard.
Oui, mais quand même.
C'est vrai. Elise Moon, pour le quiz du jour, nous avons choisi un thème qui vous est cher, les petites annonces. Je vais vous donner à vous et Eva des libellés de petites annonces diverses et variées.
Et on vous dit si c'est vrai ou faux ?
Il est tellement malin. C'est parti. Elise Moon commence avec vous. À Lyon est mise en vente une robe de mariée, 200 euros avec cette annonce. Je vends la robe que j'aurais dû porter à mon mariage s'il ne m'avait pas quitté pour aller avec des hommes. Vrai ou fausse annonce ?
Oh, moi je dis que c'est vrai. Ça vous arrive dites, tous les jours.
Vous dites que c'est vrai ?
Bah oui.
Ah, pour partir avec un homme ?
Bah oui, bien
tous
sûr.
Tous les jours ?
Oui.
Vous avez des statistiques
enfin,
que je n'ai pas.
Jours.
Mais c'est vrai, Elise Moon. La femme précisée, c'est une taille 40 à venir retirer à Lyon en espérant qu'il ne vous arrive pas la même chose qu'à moi.
La
Eva Rock, vent parachute neuf, servi une seule fois, jamais ouvert pour cause de décès. Vrai ou fausse annonce ?
Elle est vraie.
Comment vous pouvez savoir ça ?
Parce que je l'ai vue cette annonce.
Vous l'avez vue ?
Oui.
Mais qu'est-ce que vous faites exactement de nos soirées ?
Je ne sais pas.
Sur le bon coin, vous tapez parachute.
Et ça m'a fait mourir de rire. Non, mais parce que c'est quelqu'un qui l'avait relayé,
bah,
en fait.
C'est vrai.
Mais
pour 230 ouais. euros, c'est une belle affaire.
C'est drôle.
Elise Moon. Sur le bon coin, pour 5 euros, un homme vend une tarte aux pommes brûlée. Suite à des cours de pâtisserie, ma femme vous propose cette tarte brûlée. Envoi possible par lettre simple ou venir la récupérer sur place. Vrai ?
Ça sent la vanne.
Vous le pensez ? Eh bien non, parce que quand ça sent la vanne vraiment pourri. En fait, c'est vrai. 5 euros,
non.
Frais de port non inclus.
Mais
et oui,
non.
C'est vrai, mais il y a des fous. Eva Rock, à Saint-Ours, dans le Puy-de-Dôme, un dentier d'occasion est à neuf appartenant à ma belle-mère. Vrai ou fausse annonce ?
Alors, je sais pas si c'est appartenant à la belle-mère, et mais vous... j'ai vu aussi...
Mais vous passez votre vie sur le bon coin, Eva.
Je vous assure, j'ai vu ça et un cercueil aussi. Mais je dirais vrai pour le dentier.
C'est vrai, et il est même précisé.
Sérieux ?
Il est précisé 17 repas seulement.
Mais c'est pas vrai.
Bah, c'est
la réalité des
regardez, on m'a dit, s'il ne te croit pas, tu as la robe de mariée, le parachute neuf,
oui.
Et là, le dentier. Elise Moon vend costume CTLM en gazon synthétique collé sur un pantalon et un t-shirt à manches longues servi une seule fois pour enterrement de vie de garçon.
Bah non, ça sent la vanne. Non,
ça aussi,
c'est faux.
Vous sentez beaucoup les vannes. Alors que
je
les gens le font vraiment, 30 euros.
C'est pas
30
vrai.
Euros, vous pouvez vous déguiser en bonhomme CTLM pour 30 euros.
Et les gens sont prêts à tout pour 30 euros ou pour 5 euros. C'est, enfin, c'est fou. Ouais.
Les gens sont prêts à tout. Et une phrase globalement qui résume bien la vie. Eva Rock, une annonce d'un femelle hamster qui tue les autres hamsters qu'on lui met dans la cage. Ça fait le cinquième qu'elle mord en un mois. Même les enfants ont peur d'elle.
Oh non, c'est faux ça.
C'est faux ça.
Oui.
Ça, c'est complètement con.
Ouais.
Pour 30 euros, la cage et la nourriture qui va avec. Tout était vrai aujourd'hui. Et je tiens tous les dossiers à la disposition des auditeurs qui me prendraient pour un menteur. Bravo donc à qui ?
Eva.
Bravo donc à Eva.
C'est vrai.
Mais voilà. Et c'est là que vous voyez que je suis quelqu'un de poli.
Mais oui.
Et que,
d'aimable.
Et d'aimable.
De galant.
Et de galant. Voilà.
C'est magnifique.
Je vais vous demander, messieurs, de foutre le camp de ce studio et de me laisser vivre cette histoire d'amour naissante.
Ce beau
avec
moment.
Eva.
Je vous donnerai son 06. Elise Moon est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, vous savez, Elise, si à un moment de l'émission vous êtes trop déstabilisé par mon talent, ce que je peux parfaitement comprendre, il ne faut pas avoir peur de le dire. Hier, par exemple, Bruno Solo n'a pas hésité à dire les choses clairement avec beaucoup de lucidité.
Peut-être le plus grand génie de l'humanité, l'un des plus grands génies de l'humanité avec Isaac Newton.
Bon, il parlait de Picasso à l'occasion de l'expo à Toulon. Picasso à la Méditerranée, on vous emmène cet après-midi, mais bon, gageons qu'il pense peu ou prou la même chose que de moi. Je le rappelle pour être sûr. En attendant, on écoute Y2K, la la la, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2h pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Sous l'égide cet après-midi d'un des meilleurs humoristes français, Elise Moon nous accompagne entre deux dates de sa tournée.
J'espère que vous n'avez pas dit la même chose à certains
J'ai
de mes collègues.
J'ai dit exactement la même chose hier à Bruno Solo.
Est-ce que par exemple, quand vous recevez un humoriste, vous dites c'est l'un des humoristes préférés des Français?
Ah non,
parce que souvent on me dit ça, moi.
Non, moi je dis déjà ici Élie, alors ça sans déconner une seconde, je ne reçois que des gens que j'aime en fait. Donc Claire Dutronc me propose des noms et je dis oui ou non et en fonction c'est pas leur notoriété, c'est les gens que j'aime bien.
Alors donc il y a de la sincérité.
Il y a beaucoup de sincérité, beaucoup plus que les gens ne l'imaginent.
Très bien.
Alors, mon cher Élie Semoun, est-ce que vous jouez à Toulon dans cette tournée ?
Ah non, mais moi, le Toulon, je m'en fous complètement. J'ai pas du tout envie d'aller à Toulon. J'aime pas Toulon. Merde ! Ah, attendez, excusez-moi.
Oh, mon Dieu, le
c'est
buzz.
Un truc qui m'a échappé. Le buzz ! Ça y est, tout le monde va en parler.
Non, vous allez à Toulouse.
J'adore le Havre.
Ah, voilà. Et
Toulouse.
Le Havre, le 23 novembre.
Mais le Havre,
novembre.
J'y serai le 23 novembre.
Oui.
Alors, même si vous avez fait beaucoup de mal à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en dressant de ses habitantes un portrait assez à charge...
On n'est pas contente, on est furibarde, ça va ruer dans les pancartes.
Je vous propose néanmoins, mon cher Élie, de partir retrouver notre correspondant dans le sud, Frédéric Michel, pour l'événement artistique de ce mois de novembre. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, Frédéric, vous nous emmenez au musée, plus précisément au musée d'art de Toulon, où une expo consacrée à Picasso et la Méditerranée vient d'être inaugurée. Les musées, ma foi, ça vous change un peu des palaces canois et des clubs très célèbres de Saint-Tropez que vous fréquentez tout le temps.
Ah, les clichés, non, pas trop, hein, car c'est une expo 5 étoiles que je vous propose de découvrir. Un événement d'envergure internationale jusqu'au 23 février. Pas moins de 32 tableaux et dessins du maître espagnol sont exposés. Picasso et le paysage méditerranéen, c'est avant tout une histoire d'amour, une histoire très personnelle. Écoutez, Brigitte Gaillard, elle est la conservatrice des musées de Toulon.
Picasso découvre la Méditerranée en enfant, puisque il naît à Malaga, donc il naît au bord de la mer et ensuite à partir de 1920, eh bien, il passe ses jours sur la Côte d'Azur. Il aime se retrouver l'été en famille sur la Côte d'Azur et à partir de 1948, il achète une première maison et puis ensuite il s'installera bien sûr à Vauvenargues sur les traces de Cézanne.
Sur les traces de Cézanne, autre maître, vous le savez, hein, de la période, de quelle période ?
On est dans les...
Eh ben, je vous laisse répondre.
Je dirais années 30-40.
C'est la période cubiste. Hein. C'est pas les années que je vous demande, c'est la période.
Pardon d'être précise. Excusez-moi.
C'est parfait, Frédéric. Vous l'avez piégé comme j'aime.
Alors, ces chefs-d'œuvre exposés au musée d'art de Toulon, musée qui a spécialement été rénové, vont nous permettre aussi de découvrir, de rentrer un petit peu plus dans l'intimité de Pablo Picasso. On découvre ainsi sur toile son atelier de la Californie, un quartier de Cannes, où le maître a vécu. En quelle année, ma chère Eva ?
Ah ben là, je dis plus rien, vous voyez.
Dans les années 50, mais voilà. Aussi des paysages de Juan-les-Pins et d'autres paysages méditerranéens, de Malaga à Marseille jusqu'au rivage azuréen. Et aux côtés du maître espagnol, d'autres grands peintres, Braque, Dufy, Derain, eux aussi ont peint les paysages de la Méditerranée.
Mais alors Frédéric, d'où proviennent ces œuvres de Picasso ?
Alors toutes ces œuvres inestimables ont principalement été prêtées par les musées Picasso de Barcelone et Paris, mais aussi par la famille et des collectionneurs. Les tableaux et esquisses sont arrivés sous très haute surveillance. Rien n'a été laissé au hasard. Hein. La sécurité, la climatisation, l'éclairage, même la mise en place des toiles à 1,55 m du sol. On a vraiment tout pensé pour que cette exposition soit la plus belle possible et la plus sécure.
1,55 m du sol, c'est exactement la bonne taille pour Eva Rock.
C'est
parfait. Merci Frédéric. Et le public peut admirer ses œuvres au musée d'art de Toulon jusqu'au 23 février. Et pour seulement 5 € pour les adultes, 3 € pour les plus jeunes, c'est une belle idée de sortie.
Europe 1.
À suivre, deux nouveaux concurrents s'échauffent en coulisses. La plus grande compétition journalistique de France, et d'ailleurs la seule, continue de plus belle, toujours portée par votre animateur préféré. Un professionnel à l'élocution sidérante de perfection. Quant à la syntaxe, pff, n'en parlons même pas. Bien malin celui qui pourra un jour me reprendre sur une tournure de phrase. Notre premier concurrent du jour, un journaliste que je m'étais battu pour avoir dans l'équipe.
Un journaliste que je m'étais battu...
Ah oui, c'était affreux.
Je suis pas sûr que ce soit très français. Mon.
C'était affreux, mais j'ai cru que tu faisais exprès.
Je voulais pas t'arrêter en plein...
Que je m'étais battu pour l'avoir, on aurait dit, hein, ça faisait cours de récré, mon pote.
Oui, bon. Ah, oh, Élie Semoun, vous voyez les lâches que je me bats pourtant pour les... que je... dont je... Bref.
On est obligé d'entendre Bruno Solo à chaque fois.
Oui,
ou pas
parce qu'il était l'invité hier.
Fois,
et demain,
et demain ce sera moi.
Ça sera vous.
Qui est l'invité demain?
Va se régaler. Qui est l'invité demain, Eva? Vous le savez déjà?
Oui, c'est Sarah Lavoine.
C'est Sarah Lavoine, d'accord, qui pourra se foutre bien allègrement de votre gueule, Élie. Vous êtes content?
Très bien, avec plaisir.
Vous restez avec nous.
J'aime beaucoup.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
À la mi-temps de notre émission et en cette journée de résultats d'audience, j'aimerais remercier nos invités pour le soutien indéfectible qu'ils apportent à l'équipe sauvage. À l'instar de Bruno Solo, hier encore lui, Élie Semoun. Bruno Solo, hier, nombre de nos invités ont croisé les doigts très fort pour que nos audiences soient bonnes. Alors après, le problème, c'est que pour que les audiences soient bonnes, croiser les doigts, techniquement, ça ne suffit pas. Il faudrait, dans l'idéal, aller encore un peu plus loin pour vraiment aider l'émission.
Bon, vous avez quand vos prochains chiffres, là ?
C'est demain.
Pourvu que ça remonte un peu. Pourvu que ça remonte un peu, quand même. Je vous ai pas encore écouté cette année.
Non, sacré Bruno. Bruno. Prochaine étape, tu écoutes l'émission. L'équipée sauvage va entrer dans sa deuxième heure avec deux nouveaux chroniqueurs. On va notamment disséquer le bad buzz qui donne des cauchemars à la reine d'Angleterre, l'interview catastrophe du prince Andrew à la BBC concernant ses relations avec Jeffrey Epstein. Mais, je ne voudrais pas m'avancer, mais il semblerait qu'il soit 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Je l'imaginais un peu vedette, un peu diva. Le genre de star à trouver n'importe quel prétexte pour quitter le plateau plus vite, genre un problème de chaise.
Bon, bah j'ai mon dossier qui branle, on va chez Confo.
Allez, restez avec nous, Elise et Moon, on passe un super moment. Et c'est loin d'être terminé, puisque viennent de nous rejoindre deux nouveaux prétendants.
Alors,
au titre de
deux
chroniqueur
nouveaux
du jour.
Qui sont-ils?
Vous avez
j'aimerais
le trombinoscope
un peu
sous les
plus.
Yeux.
Voilà, tout à fait.
À ma gauche, il avait foutu les pétoches à Jean-Paul Rouve, qui avec ses lunettes bizarres l'avait pris pour un pédocriminel belge. Vendredi, il a fait flipper Mathieu Madénian en évoquant sa nuit blanche avec une célèbre chanteuse.
Moi je l'ai expérimenté, je l'ai écouté hier soir, toute la nuit, elle m'a fait oulala.
Vous êtes vraiment étrange, hein, vraiment.
Ladies and gentlemen, notre expert ciel et espace, Alain Sirou, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Élie, bonjour
Est-ce
à tous.
Est-ce que vous voulez que je fasse semblant qu'il y ait un public?
Oui. Oh, merci. Je sens que le public vous est déjà acquis.
Ah oui, déjà.
Ça fait deux points.
L'invité, je ne sais pas, mais le public, lui, est en délire. Alain, vous revenez sur une injustice mémorielle aujourd'hui, on connaît tous Apollo 11, Apollo 13. Mais personne ne se souvient d'Apollo 12.
Ben oui, ça fait exactement 50 ans cette semaine que deux hommes, dont je vous demande le nom, ont marché sur la Lune. C'était les numéros 3 et numéro 4. Est-ce que vous
George
vous souvenez?
Manson et Stevie Wonder. Stevie Wonder, non, c'est ça.
Je vous pardonne, Ellie, vous aviez 6 ans à l'époque.
Oui, j'avais 6 ans.
Ils s'appellent Pete Conrad et Alan Bean.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux-là?
Ils ont marché sur la Lune, simplement, numéro 3 et 4.
Mais c'est horrible.
Et pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi on ne s'en souvient pas?
Mais c'est complètement fou.
Eh ben parce que on a pensé qu'au premier, au premier homme qui a marché sur la Lune.
Non,
mais
pas seulement, je vais vous le dire.
Ils sont morts.
Non, je vous raconterai
suspense.
Dans ma chronique.
Ah ouais. Voilà, très bien.
C'est le teasing de ma chronique.
Suspense. C'est pour ça que l'émission marche. C'est parce qu'il y a du suspense.
Suspense.
Parce qu'on se pose tous la question.
Bien,
hein.
Là, on reste pour
la semaine dernière, j'y pensais encore. Je me suis dit, merde, personne ne parle d'Apollo 12. Ah ben, merci Europe 1.
À ses côtés, Ellie, sa mère avait dit...
Il est si petit.
Son père avait dit...
Il ne le restera pas longtemps. Il grandira vite.
Son père avait tort. Bonjour Emmanuel Dutheil.
C'est si méchant d'attaquer.
Mais non, mais relevez-vous un peu. Vous
êtes oui,
non,
il est petit.
Vous vous mettez très bas sur la chaise.
Au sol. Sinon, on est trop sur vos sièges. Là.
Mais là, il est debout. Voilà.
C'est ce qu'il faut dire. Emmanuel Dutheil, vous êtes le chef du service éco d'Europe 1, mais aussi grand fan des potins concernant les têtes couronnées. Or là, même moi qui suis ça de très loin, j'ai cru comprendre que le prince Andrew en avait fait une belle.
Ouais, pourtant, c'est le fils préféré de la reine d'Angleterre, 8e dans l'ordre de succession. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été un petit peu trop copain, vous savez, avec ce financier qui s'appelle Jeffrey Epstein, lui qui aimait un petit peu trop les jeunes filles. Peut-être que le prince Andrew en aurait un tout petit peu profité au détour, et surtout, et c'est ça qui crée l'actualité en Grande-Bretagne, il a essayé de se défendre samedi soir à la télé. C'était calamiteux. Et il y a pas mal de conséquences derrière, puisque des universités, des entreprises ne veulent plus travailler avec lui. On est quasiment en train de parler de son retrait de la vie publique.
Merci Emmanuel. Ah, Ellie a l'air déçue. Ben, nous verrons. Les secrets de la mission Apollo 12 ou la nouvelle pièce de Dutheil, sa patauge dans la semoule à Buckingham. Qui aura les faveurs du public? Réponse peu avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. On ne le présente plus, certes, mais qui est pour vous Elie Semoun? On est parti vous poser la question au gré des rues.
Elie Semoun? Oh là là. Ah, j'aimerais bien l'avoir comme ami, lui, tu vois. Elie Semoun.
Il est petit et maigre.
Les cheveux un peu dégarnis, des yeux tout ronds.
Il donne envie de sourire, il donne envie de rigoler, oui, parce qu'il est, il est attrayant.
Elie quoi? Elie Semoun? Semoun?
L'ex de... voilà, de Dieudonné.
Ouais, il est sympathique, il est assez fin, il est pas vulgaire.
Il a un petit air mignon, quoi. J'aime bien son petit air, son petit regard, son petit sourire, c'est...
Torturé, je pense, non? Croyez pas.
Je vois pas de caractéristiques particulières, à part qu'il fait le con.
Moi, on fait cadeau un disque de Elie Semoun il y a 15 ans. C'est pas mal, c'était agréable à écouter. Et sinon, comme comique, il me fait rire, oui.
Je le sens assez abordable, assez sympa, pas distant. Je pense pas qu'il joue la grosse vedette dans la vie courante, quoi.
Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, n'est-ce pas, Kevina?
Alors, sans ça, torturé, abordable, talentueux, une valse d'épithètes. Un point que j'ai du mal à démêler avec vous, Elie Semoun, c'est votre rapport aux réseaux sociaux. Dans certaines interviews, vous dites que vous les avez en horreur. En même temps, vous êtes assez actif sur Instagram, 1641 publications. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ça fait beaucoup. Ben, j'aime bien Instagram. En fait, je détestais... Sur Twitter, je crois que j'ai 1 700 000 personnes et je n'y vais jamais. Twitter, c'est horrible en fait. Il y a que des.
C'est plus violent,
haters.
Vous voulez dire. Il y a plus de haters que de gens.
Donc
qui
ça aiment. M'a. C'est certainement à l'époque où j'étais que sur Twitter où j'ai dit ça. Et maintenant, je retire ce que mes propos. Je trouve que Instagram est plus sympathique.
Oui, c'est vrai.
C'est
que
plus
beaucoup,
bienveillant.
Beaucoup font ce
et c'est vrai que je publie beaucoup.
Il est un authentique touche-à-tout, ce qui n'est pas pour déplaire à Eva. Élie Semoun passe l'après-midi avec
Europe 1.
À suivre, si certains journalistes sont là pour passer un bon moment tout en étant rémunérés, d'autres prennent l'affaire du championnat Europe 1 beaucoup plus au sérieux. C'est le cas d'Emmanuel Duteil, actuellement englué dans les profondeurs du classement et qui voit d'un très mauvais œil qu'une nouvelle venue, en l'occurrence notre journaliste sport Virginie Fulpin, pense déjà à le doubler.
Moi, je connais même pas le classement.
Bah, t'es dernière, tu viens de commencer.
Et pas la Fulpin, dans les corps, bibiche. Oui, qu'on se le dise, aujourd'hui, Duteil est là pour gagner. Et c'est possible, car son analyse de l'interview toute pourrie du Prince Andrew à la BBC pourrait s'avérer gratinée. A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures au cœur des bisbilles de la rédaction d'Europe 1, car vous le savez, depuis que j'ai placé les journalistes en compète, Europe 1, c'est...
Dans ton univers impitoyable.
Référence moderne qui va bien nous aider à reconquérir les 16-25. Oui. Avec nous aujourd'hui, l'intraitable Élie Semoun, actuellement en tournée pour son spectacle Élie Semoun et ses monstres. Élie, je vous ai présenté les miens, à eux maintenant de vous prouver leur valeur. Emmanuel Duteil, je sais que vous êtes en plein doute. Écoutez, n'ayez pas peur. Oui, vous avez un petit doute aussi, lui aussi. Ne pensez pas à votre place au classement, Emmanuel, 10e sur 13. Concentrez-vous sur votre papier et souvenez-vous de ce que vous a dit Alain Sirou hors antenne, ça va passer crème.
Un peu comme papa dans maman.
Oui, alors, ce qu'on dit hors antenne et à l'antenne, il y a quand même une. Bon, bref. Emmanuel, c'est à vous. Vous nous parlez aujourd'hui du prince Andrew qui en fait des belles.
Ouais, alors vous l'avez compris, Élie Semoun, hein, si je peux me permettre ces familiarités.
Semoun, hein, s'il vous plaît.
Je me permets Semoun. De vous rappeler que je joue oui, je ma même... survie ou presque
oui,
sur cette chronique. Hein.
Insulter un invité en savonnant sur son nom de famille, c'est déjà
ça part mal.
Mauvais.
Alors,
vas-y,
pourquoi
Manuel.
Je vous parle du prince Andrew. Déjà,
oui,
vous savez tous qui est le prince Andrew.
Alors, non, on ne sait pas du tout.
C'est le troisième enfant de la reine d'Angleterre. Il est souvent présenté comme le fils préféré de la reine d'Angleterre. C'est le 8e dans l'ordre de succession. Et c'est celui qui s'était marié, vous savez, avec la rousse Sarah Ferguson. Vous vous souvenez quand même de ce couple. Voilà. Ils ont divorcé, ils ont malgré tout eu 2 enfants ensemble. Ils se sont quand même presque remis ensemble. Vous avez peut-être vu en photo ces dernières années. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remariés, mais le couple est à nouveau ensemble. Mais ils n'ont par exemple pas le droit d'être... quand il y a eu le mariage du prince Harry et de Meghan, ils n'étaient pas à côté dans l'église. Parce que le prince Philippe, qui est lui le mari de la reine d'Angleterre, déteste Sarah Ferguson. Mais là, cette fois, c'est le mari. Et ce n'est pas Sarah Ferguson qui pose problème. C'est le prince Andrew qui pose problème.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce prince Andrew ?
Vous vous souvenez de Jeffrey Epstein, ce financier américain ?
Voilà. Oui, c'est des bonnes soirées ensemble.
Sur les listings, c'est ça, c'était sympa, mais j'espère que c'est plutôt faux, parce que vous risquez d'avoir des petits problèmes, surtout si vous étiez également avec le prince Andrew, quoi que vous pourriez peut-être...
Nous étions ensemble.
Donc Jeffrey Epstein, financier américain, qui s'est suicidé en prison à l'été dernier, a été accusé d'avoir organisé dans ses différentes propriétés, notamment aux États-Unis, mais également ici, semble-t-il, en France, où il avait un appartement à Paris, des parties fines avec de jolies jeunes filles qui n'étaient pas toujours majeures. Ça commençait par des massages et ça terminait, semble-t-il, de façon un petit peu moins douce, hein, puisqu'on parle quand même d'accusations.
Non, ça finissait par des massages. Et ça... Parce que moi... Ouais, je ferme ma gueule.
Oui, parce que ça pourrait être mal interprété.
Tout à fait, merci, au revoir.
Mais quel est le lien avec le prince Andrew ? C'est que le prince Andrew était un ami de Jeffrey Epstein. Et ce qui est certain, c'est qu'il a participé, peut-être pas à des soirées, mais en tout cas, qu'il était là à des moments festifs de la vie de Jeffrey Epstein. Et une femme l'accuse de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles.
Et alors, que répond le prince Andrew là-dessus ?
Alors c'est là que ça se complique complètement pour lui.
Il s'est défendu comme un bouffon. Quoi.
Ah, comme un manche. Ouais. Il a voulu s'expliquer à la télévision. C'était samedi soir dernier à 1h de grande écoute sur la télévision britannique. Et ça a été, il n'y a pas d'autre mot, ça a été...
Racontez-nous qu'est-ce
qu'il a tout raté. Alors déjà, pas un mot de compassion pour les victimes. Faut quand même le faire. Après, il y avait la personne qui l'accuse donne une date bien précise à laquelle ça se serait passé. Alors lui, il dit qu'il était avec ses filles dans une chaîne de pizza extrêmement low cost dans le sud de Londres et il trouve le moyen de dire si je m'en souviens, c'est que vous vous rendez bien compte, je vais pas souvent dans ce genre d'endroit. Donc grosso modo, vous les pros, vous avez l'habitude, vous seriez pas capable de vous en souvenir, mais moi, je m'en souviens.
Domino's Pizza, c'est pas tous les jours.
La personne qui l'accuse dit que c'était quelque
quelqu'un qui transpirait beaucoup. À la fin de la soirée dansante, ça avait été un carnage au niveau transpiration. On lui dit, bah non, je transpire pas du tout parce que j'ai eu un choc commotionnel pendant la guerre des Malouines, où semble-t-il, il avait été visé en tant que pilote d'hélicoptère. Et donc, il aurait arrêté de transpirer. Faut jamais dire ce genre de hannerie. Il y a une photo, bien évidemment, de lui assez récente où il transpire totalement sans avoir même besoin, semble-t-il, de se trémousser. Donc, c'était comme ça une succession d'erreurs de communication dans un dossier qui est, malgré tout, extrêmement important.
Une succession de mensonges, tout simplement.
Une succession de mensonges, succession d'approximations, puis surtout une succession de manque de compassion qui a choqué et unanimement la presse britannique a jugé très négativement son interview. Et on dit même que la reine d'Angleterre était catastrophée et extrêmement énervée après cette interview calamiteuse.
Et quelles peuvent être les conséquences de tout ça ?
Bien, elles sont déjà importantes, puisque certains, aujourd'hui, en Grande-Bretagne, demandent à ce qu'ils se retirent de la vie publique. Et il y a des décisions, par ailleurs, concrètes. Une université londonienne, dont le prince Andrew était le parrain, envisage de lui retirer ce titre de parrain. Plusieurs entreprises qui finançaient des fondations, et la fondation principale qu'il gère, commencent à dire, nous, on va peut-être arrêter de
Attention,
le financer.
Attention, parce que si c'est vrai que c'est un menteur, c'est justifié. Si c'est pas vrai,
bien évidemment.
Encore une fois, c'est la curée.
Pour le moment, on est dans une sorte de présomption d'innocence. Et le prince Andrew, en revanche, dit qu'il est totalement prêt à répondre à toutes les questions de la justice et ce genre de choses. Il ne se cache pas derrière son statut de prince et d'enfant de la reine d'Angleterre. Donc effectivement, il va falloir maintenant trouver le vrai du faux de tout cela. Mais en tout cas, lui est totalement englué et ça a quand même des répercussions importantes sur...
Sachant qu'on va en parler pendant 3 jours et qu'on va passer à autre chose.
Ça fait quand même maintenant des mois qu'on commence à en parler parce que déjà, quand il y a eu les premières révélations il y a quelques années de ça, quand Jeffrey Epstein avait fait de la prison, déjà Andrew avait dû s'expliquer à cette époque-là. Il est allé voir Jeffrey Epstein une fois qu'il est sorti de prison. Alors lui, il dit que c'était pour mettre fin à leurs liens amicaux. Bon, a priori, on n'a pas besoin de faire la fête pour ça. On peut se passer un petit coup de fil et a priori, il y a le téléphone à Buckingham. Donc voilà, il est quand même vraiment englué dans cette situation. Je me tais, je parle
Mathieu,
de trop,
moi, je lui enverrai un texto en lui disant que je ne le reverrai plus jamais.
Tout simplement.
C'est
simple. Voilà,
je ne vais pas me déplacer pour ça.
Un petit smiley avec bonhomme qui pleure. C'est et puis ça, voilà. Même pas. Mais vous restez quand même, Ellie, avec nous.
J'ai même pas ton numéro, alors tu vois, je tire. Non, je ne reste pas.
06 24. Monsieur Noël,
non,
je suis obligé car j'ai mis des vigiles à l'entrée. Vous ne pouvez pas sortir,
d'accord.
Le studio est barricadé.
Très bien.
Europe 1.
À suivre, Eva Rock est une journaliste extrêmement polyvalente qui a plusieurs domaines de compétences.
Drogue, sexe, oui. Alcool.
Oui, mais aussi médias, l'analyse média. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé ou sur nos écrans ? Eva se prépare. Et puis elle vous le dit. Juste après The Scientist, Coldplay sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous aimez le journalisme, mais aussi la déconne, les éclats de rire, mais aussi les débats de fond. Bienvenue dans l'équipe est sauvage. L'émission où l'investigation va plus loin et où l'on n'a pas peur de s'attaquer à des sujets qui divisent.
Le yaourt cerise, ça me rappelle quelque chose.
Ah ouais, c'est vrai ? Ah non, c'est les plus dégueulasses.
Je suis pas d'accord.
Ah, moi j'aime bien aussi, j'aime bien
les. Il reste souvent les yaourts cerises.
Ah ouais, moi aussi, moi je suis celui que je prends en premier.
Dans le frigo au fond, là, tu feras. Personne veut les yaourts cerises parce qu'ils n'arrivent pas à faire la saveur de la cerise.
Ah ouais, j'aimais bien les yaourts cerises aussi. Ce que je détestais, c'était ananas, tu vois.
Ah non, ananas, c'est dégueulasse aussi, ouais, c'est vrai, t'as raison. Élise,
vous allez très très loin.
Je vous le demande, les yeux dans les yeux. Faites-vous partie du clan des yaourts cerises ou du yaourt ananas ?
Bah non, je déteste ananas, je veux cerise.
Voilà, eh bien les Français ont le droit de savoir.
C'est comme moi.
Merci à vous. Élie Semoun.
J'espère avoir apporté ma petite pierre à ce débat. Et c'est important. Je pense que les gens vont s'en souvenir.
Mais oui. Je pense que ça fera date. Il y aura même, une reprise AFP en cours de rédaction. Dites-moi, mon cher Élie, bientôt le troisième volet de Doukobu. Doukobu.
Alors, Doukobu, voilà. Et non
que
pas
vous avez, et non pas
Doukobu. Que j'ai réalisé, tout à fait.
C'est
j'ai
le eu premier
cette chance.
Film que vous réalisez.
C'est la première fois.
Mais alors, vous avez réussi à tenir la petite caméra avec vos petites mains.
Alors, c'est pas moi qui tenais la caméra. Moi, j'étais devant le combo.
Vous donniez les consignes.
Je donnais mes ordres.
Donniez les ordres.
Et en effet, j'ai eu la chance de passer 3 mois en Belgique et de diriger, parce qu'on a tourné en Belgique, puisqu'on tournait avec des enfants.
Okay. Bon. Oh non!
Ah, ça y est,
oh la passion du buzz qui revient! Oh
qui
mon
revient.
Dieu, mon Dieu!
Non, pour des raisons qui m'échappent, des histoires
de
tax
shelter,
etc. Enfin, j'ai rien compris. Mais,
mais
le fait
suivi.
Est que voilà, j'étais aux commandes de ce film magnifique que j'ai co-écrit avec Marc de Chauvron et Guy Laurent. Je suis au montage en ce moment. Ça sort le 5 février 2020 et je crois que ça va être une petite bombe.
Élie Semoun, vous êtes tout le temps sur scène, vous êtes en tournée actuellement. Oui. Est-ce que vous avez le temps encore, vous, de regarder la télé ?
Sincèrement, je crois que je suis comme tout le monde, je ne regarde plus la télé. C'est horrible.
Alors,
hein.
Si vous ne regardez pas la télé, moi non plus, ouais. Mais les séries, vous regardez
séries,
les écrans.
Oui,
vous
sur,
êtes,
Netflix,
vous êtes,
oui,
voilà,
bien
sur Netflix,
oui,
sur Netflix. Ouais. On y vient. Voilà, selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous en moyenne, Élie, 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur chaque plateforme de VOD.
Heureusement que je suis célibataire.
Un des avantages du célibat, clairement. Voici néanmoins 17 minutes de gagner pour les couples. Eva Rock.
Eh oui, j'ai souvent lu dans les interviews, Elie Semoun, vous faisiez des déclarations sur la musique classique en disant quand vous aimez la musique classique, les gens vous regardent un peu bizarrement, notamment l'opéra, etc. Ouais. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce documentaire pour vous. J'ai eu un immense coup de cœur pour un film à voir ce soir sur Canal Plus Family ou sur le site de la chaîne Dès Demain, qui est intitulé De rage et de cœur. Il y a 3 ans, il y a 18 élèves de 5e d'un collège de Nanterre, c'est un collège qui est classé en REP. Les 18 élèves ont été désignés pour suivre un programme sur 3 ans. Donc leur classe de 5e, de 4e et de 3e. Écoutez bien, 8 heures de danse par semaine pendant 3 ans. 8 heures de danse par semaine pendant 3 ans avec Rodolphe Fouillot qui est chorégraphe et danseur. C'est un enseignement au sein de l'Opéra de Paris et autant dire que la nouvelle, elle n'a pas été reçue avec un immense enthousiasme.
Et ils ont changé d'avis.
Et oui, Rodolphe Fouillot, lui, il était convaincu de cette action. Alors le documentaire retrace la dernière année qui va amener les élèves à se produire sur la scène de l'Opéra Bastille. Et écoutez bien, c'est quelques heures avant leur prestation, échange entre une des jeunes filles et le chorégraphe.
Je ne comprends pas comment vous n'avez pas fait pour vous arracher les cheveux.
Parce qu'on croit à ce qu'on fait, c'est le plus important. Et puis que vous êtes des gamins super. Et puis après, il faut déjouer certains stéréotypes, tu vois. Genre, vous venez de Nanterre, vous venez de ce collège, donc forcément, vous allez être difficile. Les premières fois quand vous alliez dans les musées, les gens vous regardaient en disant « mais c'est pas possible ». Et puis, vous avez pris aussi l'habitude de ça. Vous avez essayé de déjouer les codes.
3 ans pour apprendre à danser, et les élèves sont excellents. 3 ans pour apprendre aussi à appréhender son corps, la discipline également, et il y a du boulot. La vie en communauté, le respect de l'autorité, comprendre l'apport de la culture dans une existence et se dire que chacun y a droit. Comprendre aussi que la mousseline, c'est une matière pour les tutus et pas seulement de la purée, parce que vous allez pouvoir entendre aussi ce genre de réflexion. La transformation des jeunes, elle est incroyable sur ces 3 ans. L'énergie de Rodolphe Fouillou, lui, c'est bouleversant. Et c'est un documentaire dont il faut aussi louer la réalisation et qui prouve surtout que les rêves de ces ados, ils peuvent se concrétiser. C'est une vraie leçon de vie, sans aucun angélisme, parce que vous allez le voir, en matière de discipline notamment, c'est la galère.
Voilà. Vive la culture.
Exactement. De rage et de cœur sur Canal+.
Merci, Eva. 17 minutes de gagner.
Europe 1.
À suivre avec ses lunettes à la Derrick et son grand impair, vous ne lui confieriez pas vos enfants. Et vous auriez peut-être raison, sachant que notre invité vendredi dernier, Mathieu Madénian, l'a reconnu du temps où il était avocat.
Il était derrière les barreaux et moi j'étais de l'autre côté. Et maintenant, il est scientifique.
Et oui, il est même directeur de la revue Ciel et Espace. Et aujourd'hui, Alain Sirou nous raconte l'histoire d'Apollo 12. Vous ne la connaissez pas ? Normal.
Europe 1. L'équipe Sauvage, 16h-18h. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, le grand tournoi opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1, ou en tout cas ceux qui m'ont été présentés comme tels quand j'ai signé, continue. 4 journalistes, leur mission, booster votre culture G pour peut-être emporter la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour sous l'œil complice, mais torve, d'Elie Semoun.
Je vous confirme qu'il est torve.
Actuellement en tournée avec ses monstres.
Cette couronne, pardon. Allez-y.
Qu'elle n'est pas à l'image d'Europe 1, c'est vrai.
Faites ma promo, s'il vous plaît. Vous êtes là pour ça.
Je suis là pour ça. Et j'ai envie de dire, Elie Semoun, exceptionnel humoriste, surtout un humoriste dont la force principale, je dirais, est le texte, la précision du texte. Vous n'êtes pas un de ces humoristes qui mise sur sa nature comique et qui va partir dans des impros avec le public en reparant qu'une personne au troisième rang a toussé. Vous êtes vraiment, c'est très méticuleux comme écriture.
Oui, c'est très méticuleux. Par contre, pour la première fois, je fais monter quelqu'un sur scène.
Ah tiens.
Parce que j'ai tellement galéré pour le sketch de Wagner, parce que Wagner, c'est pas un sujet drôle. La musique est pas drôle, rien n'est drôle. Donc je me suis dit, il faut que je sois pas tout seul sur scène. Alors j'amène quelqu'un sur scène, ce que j'ai jamais fait en 1000 ans de carrière, et je lui explique la Valkyrie, qui est impossible à comprendre évidemment, et je lui fais interpréter un personnage dans la Valkyrie.
Visiblement, c'est un passage qui a beaucoup plu à Eva.
Ouais. Ah oui, puis à chaque fois, je pense à ces pauvres gens qui sont sur scène, comme j'aimerais pas
ça
être à leur place.
Je m'arrangerai avec Ellie pour que ça soit vous la prochaine fois qui monte là. Alors, Ellie, après avoir entendu ce qui suit, vous aurez envie de faire un sketch sur les scientifiques. Je vous présente notre expert ciel et espace, Alain Sirou. Scientifique et showman, comme il nous le prouve chaque vendredi quand l'émission est en public et qu'il a préparé des effets sonores bluffants.
3000 personnes à qui on a dit quelle est la musique, quelle est la chanson que vous classez en tête. Je vous propose de l'écouter.
Effectivement, c'est marquant. Alain Sirou, toujours très bien orchestré vos chroniques. Cet après-midi, vous nous parlez non pas d'Apollo 11, la mission qui est allée sur la Lune, non pas d'Apollo 13, hein, tout le monde a vu le film, on connaît l'histoire, mais d'Apollo 12 qu'on a pratiquement tous oublié.
Bah oui, c'est une injustice.
Pourquoi hein,
ça fait... Alors, c'est la question à laquelle je vais répondre, mais je vais juste vous rappeler que ça se passait 4 mois après que Neil Armstrong et Buzz Aldrin, bien connus, aient marché sur la Lune. 4 mois, c'est pas beaucoup. Hein. C'est une mission qui est identique, c'est la même fusée, sauf que quand elle décolle, 4 mois après, au bout de 40 secondes, elle se prend la foudre sur la tête.
Oh,
vous imaginez, vous êtes 3 dans la capsule, vous montez vers la Lune, la fusée consomme l'équivalent d'une piscine olympique de carburant à la minute, et tout d'un coup,
on monte vers la Lune.
Oui.
Et tout s'éteint. Et il y a un type à Houston qui se souvient de ce qu'il faut faire au cas où il y a une interruption totale des communications.
Ah bah heureusement.
Et donc, tout est remis en place et ils repartent vers la Lune. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire déjà. Et la mission se passe très, très bien. La destination est l'océan des tempêtes. Et je vais juste vous faire écouter, juste pour l'ambiance, ce qui se passe dans le module lunaire au moment où les deux astronautes descendent vers la Lune. Écoutez leur enthousiasme. Voilà, ils viennent d'identifier le cratère auprès duquel ils doivent se poser et ils vont réussir à se poser à 176 mètres de l'endroit où ils devaient aller, là où s'était posé un engin automatique qui s'appelle Surveyor 3, qui était lui destiné quelques années auparavant à donner les conditions de la Lune, et ils allaient récupérer en fait quelques morceaux, faire des photos, voir comment l'engin était resté. Très bonne ambiance, extraordinaire ambiance, décontraction totale, les deux hommes sont copains, amis, bon c'est des pilotes d'essai aguerris.
Attendez, alors j'aimerais quand même vous poser une question à ce stade, comment on peut être décontracté sachant que c'est juste la deuxième fois que des hommes font ça dans l'histoire de l'humanité, qu'on est à des milliers de kilomètres.
Non,
vous
non,
êtes
non,
en train
ça
de faire
se trouve,
un
trident, le mec est en train de vomir, se chier dessus.
Pas du tout, parce que...
Vous savez pas non, 42 alors, degrees, il dit peut-être que c'est la température de son corps.
Non, j'ai posé la question. Je leur ai posé la question, j'ai rencontré...
Ils sont encore vivants?
Vous les avez vus?
Non, ils ne sont plus vivants, mais j'ai rencontré Alan Bean, qui est mort cette année, qui était justement un des hommes.
Avant sa mort ou après
et qui avait répété tellement de fois la mission, puis surtout il y avait eu le succès auparavant
ils étaient rassurés par le succès.
Oui. Donc ils vont passer 2 jours sur la Lune, vraiment ils vont sortir 2 fois, ils vont ramasser 34 kilos d'échantillons couverts de poussière, ils vont remonter à bord du module lunaire où leur attend leur camarade qui tourne en orbite, et ils sont tellement couverts de poussière qu'ils leur demandent d'enlever leurs vêtements et ils rentrent à poil, ils rentrent vraiment à poil dans la capsule. C'est pour rejoindre l'autre. Vous imaginez la scène autour de la Lune, deux hommes. Bon, bref, une excellente ambiance. Mais pourquoi est-ce que plus aucune télévision n'en parle? Tout le monde s'est désintéressé.
Alors, répondez à cette question.
Alors, pour une raison très simple. La NASA avait fourni une caméra couleur, première caméra couleur aux astronautes.
Qui est tombée en panne.
Pour filmer les événements. Et accidentellement, Alan Bean a pointé, au moment où il voulait régler cette caméra,
vers le soleil,
et évidemment, ça a cramé le récepteur. Et privé de
c'est
image...
Je ne l'aurais pas pris dans mon équipe de tournage, celui-là. Alors là, franchement...
C'est Mr Bean. Privé totalement d'image, les télévisions, les radios, tout le monde a cessé d'en parler, parce que finalement, c'était quand même la seconde fois. On avait déjà gagné une première fois. Et cette mission qui était quand même extraordinaire, parce que les hommes ont fait une exploration scientifique, et puis on voyait encore la Lune. N'oubliez pas que les premiers étaient restés quelques heures seulement, ceux-là vont rester 2 jours, eh bien le public s'est totalement désintéressé. L'un a dit, bon, ça suffit, la prochaine fois on met les moyens de l'image et on essaiera de redonner de la puissance. C'était Apollo 13, ils ont réussi.
Attendez, Alain Sirou, excusez-moi, mais à aucun moment quelqu'un de la NASA s'est dit, on va leur mettre un appareil photo en plus, une petite caméra en prime si jamais l'une des deux tombe en panne, parce que quand
ça
paraît complètement dingue.
Oui, mais à l'époque, et je vous rappelle aussi que pour Apollo 11, la caméra a été installée au dernier moment. Personne ne pensait que l'image avait de l'importance.
Surtout qu'ils allaient arriver, peut-être. Ils se sont dit, on ne va pas mettre de caméra, ça ne sert à rien, on ne va pas dépenser 1000 dollars.
500 millions de spectateurs ont suivi Armstrong sur la Lune avec une caméra dont on avait du mal à comprendre les images. On voyait des choses en noir et blanc. Mais à l'époque, je dirais, le public ne comprenait pas ce qui se passait compte tenu des images, et on a découvert finalement l'importance plus
tard. C'est comme si le micro était en panne et qu'on n'entendait pas tout ce que vous
une
nous disiez.
Micro,
ce serait dommage.
Et d'ailleurs, on me signale que c'est le cas. Là. Il va falloir refaire cette chronique. Okay. Merci beaucoup, Alain Sirou. Elie Semoun est avec nous jusqu'à 18h. Il triomphe sur scène actuellement en tournée.
Europe 1.
À suivre, rencontre au sommet justement entre deux des plus grands humoristes de leur temps. D'un côté, Elie Semoun, et de l'autre, l'étoile montante de l'humour belge, Olivier Pouls. Des recettes de cuisine bluffantes, mais pas autant que ses punchlines. Hier, par exemple, Bruno Solo, venu nous présenter son docu-fiction historique La Guerre des Trônes, a été scotché.
Mais ôtez-moi d'un doute, La Guerre des Trônes, ça n'a rien à voir avec les toilettes. Hein.
Voilà.
Je vous le rassure, il a reçu des consignes. Aujourd'hui, il se contentera de nous donner sa recette. Délice in extremis, on approche.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour assouplir vos zygomatiques sans pour autant débrancher vos cerveaux. 2 heures également pour mettre en valeur un invité qu'on aime. Par exemple, lundi, on recevait Stéphane de Groot, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai veillé à ce que le montage lui soit favorable. Alors, c'est vrai, c'était lundi, on était tous encore ramollos des excès festifs du week-end. Bref, c'est rarement le jour où on est le plus inspiré, quoi.
Parler de la mort, je pense que c'est un truc assez vivant. C'est parler de la vie. On ne doit pas la garder, celle-là.
Non.
Non, pas le jour même, bien sûr. Il y a ton attaché de presse qui veille au grain. Mais quelques jours plus tard, pourquoi se priver de bonnes choses ? Élie Semoun, vous attendez avec impatience l'émission de lundi prochain. Hein. L'avancez pas, celle-là. Élie Semoun, j'ai envie de parler de stratégie de carrière avec vous. Déjà, est-ce que vous êtes un stratège ?
Pas du tout, ça m'emmerde d'ailleurs.
Et pourtant,
j'aimerais bien.
Pourtant, Élie, quand on regarde ce que vous faites, on pourrait croire que vous l'êtes. Avec le doublage de Sid dans L'Âge de glace, mon fils est fan de vous, du Cobu, dont nous avons parlé, vous parlez aux enfants. Avec vos spectacles, vous embarquez les parents avec des thématiques plus complexes, comme on l'a dit. Vous êtes vraiment devenu un comique transgénérationnel et c'est pas donné à tout le monde, ça.
Ah, vous croyez ?
Ah ben, je crois tout à fait.
J'aimerais bien. Je sais que les enfants m'aiment beaucoup et je les adore. Mais à savoir si je suis transgénérationnel, non, parce que dans... Les gens qui viennent me voir dans la salle, ils ont entre 30 et 40 ans, donc c'est pas... Et 50 ans, enfin bref...
Il y a peu de jeunes avant spectacle.
Il y en avait quand je faisais le sketch de Kevina, je me rappelle.
Ouais, mais ça vous avez...
Ils venaient se voir, en fait. non mais c'est vrai, je pense qu'il va y en avoir, ça va rajeunir avec du Cobu, mais je tiens à leur signaler que le sketch, de, par exemple, de l'échangiste, il va falloir que les parents bouchent les oreilles de leurs enfants.
Il y a des choses qui ne sont pas audibles. Bah,
c'est un spectacle un peu noir, un peu trash. Enfin,
c'est un peu trash quand même.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, oui, moi j'ai trouvé que c'est très, très humour noir, en fait. Donc, s'il y a des enfants dans la salle, parce qu'ils sont allés voir du Cobu et qu'ils ont envie de vous voir...
Ils vont se marrer quand même.
Oui, ils vont se marrer. Les parents vont devoir expliquer certains passages. Mais c'est pas grave. Au fond, on se met dans leur tête, mais ils comprendront ce qu'ils veulent. Et puis voilà, tout va bien, quoi.
Oui, Eva,
les dates de tournée, je donne les premières dates. Hein. En novembre, vous serez au Havre, à Yvetot, Saint-Benoît, Nogent-sur-Marne, Roy, Rueil-Malmaison, Caluire et Cuire. Et puis à 9h aussi. Et puis le 6 janvier et le 7 janvier, ce sera les Folies Bergères à Paris.
J'ai hâte.
Voilà. Ouais. Et puis toutes les autres dates de toute l'année 2020, vous les retrouvez sur
mon Instagram. Ou sur
exactement.
Et si ça existe encore la semaine prochaine.
C'est pas sûr. Et si c'est Moon sur Europe 1 cet après-midi.
Europe 1.
À suivre, je sais, Élie, que vous avez eu, comme tout un chacun, votre période SM. Mais avez-vous déjà fini ?
Des œufs farcis et enroulés, confits dans une sauce au vin rouge et aux échalotes.
Mettez du piment dans votre vie et surtout dans vos plats. Olivier Pouls arrive pour votre recette express de dernière minute, délice in extremis, juste après Lewis Capaldi, Someone You Love sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité qui partage toujours notre curiosité, comme Mélisse et Moon aujourd'hui qui, je crois, passe un très beau moment.
J'adore cette émission Silence, ça pousse.
Oui, bref. Élie, très beau moment ou pas, nous allons maintenant aborder un sujet.
Tu ne crois pas si bien dire.
Oh, petit salaud.
Là, on vient de m'amener une sorte de pâté orange qu'il va falloir que je mange. Alors je ne sais pas.
Justement,
sais pas
nous allons aborder un sujet qui va beaucoup plaire à Eva Rock, puisque nous allons parler des carottes.
Ah ouais.
Râpées.
Ah non, faites chier.
Désolé, Eva. C'est une classique des cours d'école. Mais c'est la recette qu'a choisie aujourd'hui Olivier Pouls, notre expert en recettes dernière minute.
Van.
Ah oui, je la faisais quand j'avais 7 ans. Bonjour, Olivier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Kevin, bonjour.
Ce plat orange étrange, ce sont des carottes râpées.
Ben oui, ce sont des carottes râpées parce que, Élie, je sais que vous avez une passion pour les jardins, pour les légumes.
J'adore, ouais. Oui, oui, j'ai pas de potager chez moi, mais j'ai un jardin fleuri, mais j'ai pas de potager. Et je suis pas un grand gastronome, ça doit se voir.
Ah non, mais... pas tellement, je trouve.
Ah oui, d'accord.
Plutôt, non.
Ah oui,
il est fin comme un roseau.
Oui, tout à fait. Les roseaux plient, mais ne rompent jamais.
Voilà. Alors, voilà.
C'est aussi son slogan sur Tinder.
Tout à fait.
C'est vrai.
Je vous ai du coup préparé
faux,
un plat de jardin, puisque les carottes, on peut les faire pousser chez soi, c'est pas très difficile, c'est totalement de saison. Et donc des carottes râpées.
Je les goûte ou
ah ben vous pouvez y aller, Et je vous les ai
je dis dites adieu à mon cher public. J'ai une carrière de 30 ans, je me suis amusé, j'ai fait rire des milliers de gens. J'espère que je serai regretté.
Voilà, terminé pour des
adieu
carottes râpées.
Élie.
Alors, carottes râpées de manière un peu asiatique. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dans cette préparation. Alors, de la sauce soja, j'ai mis du sésame torréfié,
Ça, c'est
j'ai
bon.
Mis un peu de citron vert, une petite pointe de poivre, évidemment, et j'ai très légèrement crémé de manière à donner un peu d'onctuosité à ce plat. Et pour terminer, un petit peu d'herbe du jardin, un petit peu de coriandre, un petit peu de coriandre finement haché. Donc c'est un esprit
c'est
asiatique.
C'est très simple à faire.
Mais c'est hyper simple. J'ai mis 3 minutes pour le faire.
3 minutes.
Oui, ah 3 oui. minutes.
Plus rapide. Bah,
le plus long.
Combien de temps je vais mettre pour le digérer
le
par contre.
Le plus long étant de.
D'être bien sympathique. Ramener
les carottes. Non mais le plus long c'est de ramener les carottes.
C'est délicieux. Je suis le seul à le goûter parce que
ben
ma générosité.
Parce que nous on doit bosser demain donc.
J'ai le montage de mon film à finir.
Oh mais vous trouverez bien un monteur pour faire ça.
Alors du cobu sortira en mars 2020 finalement.
Non, février. Ah oui. D'accord. Excusez-moi,
mais
non, j'y
vous
pas
êtes
pas
premier degré, Élie.
Je vous emmerde, bon, monsieur Noël.
Cela dit, mine de rien, il les mange. Hein.
Ah, non, mais c'est vachement bon. C'est vachement. Ouais, c'est très bon.
Avouez que c'est bon ce qu'il fait.
Mais
Olivier.
J'avoue, bien sûr. Oui. Pourquoi je suis sincère.
Bah, écoutez, merci bon. Beaucoup. Voilà, la
merci
recette est très
beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
Europe 1.
Au moment du sprint final, les cœurs se serrent et pas que. La belle amitié qui régnait jusqu'alors dans l'émission, chacun faisant mine de prendre le concept de compétition à la légère, vole en éclats à l'approche du verdict. Des tensions verbales commencent même à apparaître entre nos journalistes.
Je vais t'en refaire la gueule.
Restons sport, les amis, restons sport. Qui sera élu chroniqueur du jour? Réponse dans une poignée de secondes.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est la fin de 2 heures d'un suspense insoutenable.
Moi, j'arrivais plus à respirer.
Mais n'exagérez pas non plus, Eva. Mais oui, c'est l'heure du dénouement. Qui sera sacré aujourd'hui chroniqueur du jour? Notre invité Elie Moon ne peut plus attendre.
Donc, je vais bientôt partir en sucette.
Alors, dépêchons-nous, les amis. Il est vraiment fatigué. Dernière chance pour nos candidats. Alain Sirou, pourquoi Elie Moon doit-il voter pour vous?
Parce que c'est le seul sujet qui, je dirais, donne la tête dans les étoiles.
C'est joli. Thierry Geffrotin.
Même chose, pas mieux.
Pas mieux, c'est effectivement un euphémisme, Thierry. Emmanuel Dutheil, pourquoi devrait-on voter pour vous?
Parce que sinon, je suis viré.
Ça,
c'est du chantage à
le plus juste. Axel de Tarlé.
Parce que moi, je parle de sauver la planète. Et il n'y a rien de plus important.
Oh lamentable.
Le mec ne me regardez pas comme ça. Il y a quelque chose de troublant et de gênant avec cette personne qui est à ma gauche.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Eh bien, à 30%, c'est 30%. Pour Thierry Geffrotin et les secrets de Versailles.
Thierry Geffrotin emporte le vote du public.
Ah bon,
j'ai un point à donner à quelqu'un. À qui, d'après vous, je vais le donner? Vous me connaissez, vous connaissez mes passions, vous connaissez mes goûts.
Alain Sirou.
Bien joué, Eva. Alain Sirou, un petit point pour vous. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur, Elie Moon. Attention.
C'est atroce de se noter entre amis.
Mais c'est le principe de l'émission, Elie.
Ouais.
4 CDI sont suspendus à vos lèvres. Votre voix compte triple, Elie.
Moi, je voudrais voter pour la seule femme de cette équipe, c'est-à-dire Alain Sirou. Non, Eva qui a fait.
Non, non,
Eva est hors compétition. Vous savez, comme les films un peu moyens au Festival de Cannes. Pas de. Non, Eva n'est pas en compétition. C'est parmi ces 4 zygomates
pour réfléchir. Alors je vais voter pour un mec.
Je vais voter pour vous Emmanuel.
C'est Emmanuel qui remporte la 61e édition de l'équipe est sauvage avec Elie Moon, que vous pouvez applaudir en tournée avec son nouveau spectacle Elie Moon et ses monstres. Merci Elie d'avoir joué le jeu de l'équipe est sauvage cet après-midi. Merci également à mes journalistes Eva Rock, Thierry Geffrotin, Axel de Tarlé, Alain Sirou, Emmanuel Dutheil, le champion. L'équipe est sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous, à votre invité évidemment qu'on salue et cette équipée sauvage toujours en forme. Demain votre invité sera une décoratrice, Sarah Lavoine. Belle soirée à vous Mathieu, salut.